suite et milieu d'une semaine sur Dieu dans les nouveaux chemins de la connaissance. Après le Dieu des chrétiens, avant le Dieu des juifs, c'est d'Allah que nous allons parler ce soir. Ne cherchez pas, auditeurs malins, dans cette succession la moindre hiérarchie dans un sens ni dans l'autre. Nous parlons de Dieu cette semaine dans les nouveaux chemins et nous en parlons dans le désordre. Et c'est en compagnie de Bagat El-Nadi et Adel Rifat, qui écrivent à quatre mains sous le pseudonyme unique de Mahmoud Hussein, que nous allons évoquer le dieu des musulmans, Mahmoud Hussein, qui est, qui sont donc, l'auteur de « Penser le Coran », notamment donc, paru en janvier 2009 chez Grasset. Bonjour Mahmoud Hussein.
Bonjour.
Bonjour. Alors vous me répondez d'ailleurs dans une belle unanimité, hein, une synchronisation parfaite. Je voudrais d'ailleurs commencer cette émission en vous posant une question que je me pose depuis quelques années. D'où vous vient ce pseudonyme unique? Pourquoi écrivez-vous d'ailleurs sous un pseudonyme unique, l'un et l'autre,
hein? Mais moi je croyais que c'était connu. On a tellement raconté l'histoire. Que je croyais que
tous les auditeurs ne la connaissent pas. Allez-y.
Bon, mais quand nous sommes arrivés en France et nous avons écrit notre premier livre, La lutte de classe en Égypte, on l'a amené chez Maspero, François Maspero, l'éditeur. Alors François Maspero nous a donné un conseil. Il nous a dit un livre avec deux auteurs, des noms inconnus, ça ne marche pas. Il vaut mieux choisir un nom. Que ce soit Adel Rifat, que ce soit Bahgat El-Nadi, que ce soit Adel Bahgat, que ce soit Bahgat Adel. Moi, un seul nom. C'était un conseil. Et comme nous venions d'Égypte, on a pris ce conseil au sérieux. On a considéré que c'était vraiment... Alors, on a choisi un nom, Mahmoud Hussein. On ne voulait pas mettre Adel Bahgat, Bahgat Rifat, tout ça. On a pris un nom commun, tout à fait commun, qui n'a rien à voir, qui n'a aucun sens. Et voilà.
Et qui a, marché. Et qui désormais est un nom connu. Bravo donc à tous les deux.
Mais alors, est-ce que je peux ajouter que
Adel Rifat,
il y a quelque chose qui va tout à fait au-delà de l'anecdote que Bagat vient de raconter. Il y a le secret d'une amitié qui est un cadeau de la vie et qui fait que quand on nous demande mais comment vous faites, il n'y a rien à faire. C'est une grâce, c'est une bénédiction. On réfléchit à deux et puis la vie nous a donner ce beau cadeau de pouvoir constamment discuter ensemble. Parce que nous sommes très différents, nous avons des sensibilités différentes, nous venons de milieux différents. Et cette espèce d'osmose étrange, d'alchimie qui se fait au jour le jour, voilà ce qu'il y a aussi sous le pseudonyme commun.
Vous avez parlé, allez-y Bagat El-Nadi.
Non, elle veut dire que François Maspero, avant tout le monde, avait touché quelque chose.
Non, oui, quelque chose de décisif, effectivement, l'amitié. D'ailleurs, c'est intéressant, partons de là, la question de l'amitié en général, la mauvaise presse dans les religions. Il y a peu de textes religieux sur l'amitié. Est-ce que ça ne tient pas au fait que l'amitié est une vertu sélective, une façon d'élire dans le cours de la vie ou dans le cours du monde des êtres dont on préfère la compagnie à celle des autres, alors que les religions s'adressent, qu'elles soient prosélytes ou qu'elles ne le soient pas d'ailleurs, à l'universel humain. Adel Rifat.
Que je réponde.
Allez-y, Bagat El-Nadi, comme vous voulez.
Non, je crois que l'amitié dans l'islam a une place très importante, franchement.
Il y a des sourates qui évoquent cette question.
Oui, aimez-vous les uns les autres. Il y a des
c'est pas pareil, ça. Aimez-vous les uns les autres, c'est pas aimer quelques-uns et pas d'autres.
Non, mais c'est ça que j'allais dire. Le prophète, c'est plus clair chez le prophète. Il disait, quand l'un de vous aime un autre croyant, il faut qu'il le lui dise, très clairement. C'est pas parce qu'à l'époque, il y avait des amitiés de ce genre. On raconte, par exemple, qu'autour du prophète, il y avait des compagnons qui avaient des préférences. Nous savons que le premier calife, Abu Bakr, était très ami avec Omar ibn al-Khattab, qui est devenu le deuxième calife. Et on disait que les deux étaient inséparables. Alors, il y avait des amitiés de ce genre et le prophète bénissait ses amitiés.
D'accord. Donc, l'amitié ou la religion, en l'occurrence l'islam, n'est pas hermétique à l'idée d'amitié. Elle permet même de la penser, Adel Rifat.
Ah oui, on n'a jamais eu le sentiment d'avoir...
Encore une fois, au sens où l'amitié serait sélective, donc serait exclusive finalement de ceux qu'elle ne concerne pas.
Ah, mais vous avez dit sélective, ce qui ne veut pas forcément dire exclusive. Enfin, en ce qui nous concerne, c'est une évidence qu'il y a quelque chose de tout à fait particulier entre nous deux, mais ça va dans l'ouverture la plus large à toutes les autres amitiés que la vie pourrait nous offrir. Donc il n'y a pas du tout l'idée d'exclusivité.
Bien, alors rentrons dans la lettre du texte ou dans le vif du sujet. Hein, c'est la même affaire ici. Dans l'émission de demain que nous avons enregistrée tout à l'heure, l'émission qui portera sur le Dieu des Juifs, le Dieu de la Torah, Dan Arbib, l'invité de demain des Nouveaux Chemins de la Connaissance, parle à propos du Dieu des Juifs, revenant sur l'épisode dans lequel Abraham discute avec Dieu de la destruction de Sodome et se trouve en situation de négociateur. Dan Arbib parle à propos du Dieu des Juifs, d'un Dieu avec lequel on peut négocier. Ce qui au départ d'ailleurs peut sembler un peu choquant. Et de là, il en est venu, et il en viendra demain donc pour les auditeurs, à dire que cette négociation débouche sur une interprétation, la nécessité presque connaturelle au texte d'être interprété. En somme, il n'y a pas dans le judaïsme de lecture littérale du texte. La démarche interprétative est consubstantielle au judaïsme. Est-ce qu'on peut en dire autant de l'islam, ou bien faut-il poser le problème, et je vous pose cette question à dessein, le problème de ce que vous appelez l'un et l'autre, donc le postulat littéraliste, Adel Rifat.
Ah, mais de toute façon, on en viendra au postulat littéraliste, parce qu'il est essentiel, mais ce n'est pas parce que ça serait consubstantiel à l'islam. Vous savez qu'il y a un hadith, c'est-à-dire un propos du prophète, qui est tout à fait indiscuté par les musulmans, et dans lequel le prophète raconte qu'il a été appelé par Dieu à monter au septième ciel, et en chemin, il a rencontré toute une série de prophètes. Juste avant de rencontrer Dieu, c'est Moïse qu'il avait comme interlocuteur, qui l'a salué, qui lui a souhaité la bienvenue. Et puis, Mohammed est monté jusqu'à Dieu, jusqu'au lotus des confins. Et peu après, si on peut parler de temps, il redescend et Moïse l'arrête. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il m'a dit que je dois demander à mon peuple 50 prières par jour. Et Moïse qui lui dit, mais tu n'y penses pas, c'est impossible, vous ne pourrez jamais le faire. Remonte, dire à Dieu qu'il faut diminuer un peu. Mohammed, acceptant le conseil, remonte vers Dieu et redescend avec, je crois, une quarantaine de prières. Et
donc Moïse, il négocie lui aussi.
Il négocie absolument. Il a fait un va-et-vient plusieurs fois, jusqu'au moment où il redescend et il dit à Moïse, il m'a dit 5. Moïse lui dit, mais tu ne pourras pas. Il dit, non, je ne peux plus revenir. Et donc, il est descendu avec 5 prières. Mais c'est exactement la même...
C'est la même affaire que le nombre de justes qu'il s'agit de sauver lors de la destruction de Sodome. On passe de 50 à 10. Et les rabbins disent, s'il avait demandé 9, il aurait obtenu, il aurait tout gagné. Allez-y.
Mais ce n'est pas seulement le prophète qui négocie avec Dieu ou qui demande à Dieu de changer d'avis à propos de quelque chose. Ce sont les musulmans, tous. Et il y a dans le Coran un verset qui dit, si vous êtes 10, vous pouvez vaincre 100. Si vous êtes 100, vous pouvez vaincre 1000. Alors les musulmans disent au prophète, mais non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire 10, 100, 10, 20, ça va, mais 10, 100, 10 contre 100, ce n'est pas possible. Bon, alors, quelques temps plus tard, un autre verset de 100, maintenant que Dieu a su votre faiblesse, alors il vous dit que 10 contre 20 ou 100 contre 200. C'est-à-dire c'est les négociations. On peut appeler ça négociation, mais on peut dire des discussions, quoi. Des discussions entre croyants et Dieu, des demandes et des réponses. Ça existe tout le temps dans le Coran.
Est-ce à dire, Adel Rifat, que la parole de Dieu n'est pas gravée dans le marbre?
Absolument. La prendre pour l'équivalent des tables de la loi, ce n'est pas l'islam. Et précisément, je rebondis sur une de vos premières remarques. La négociation, est-ce que ça ne va pas à l'encontre de l'idée littéraliste? En fait, il faut expliquer, il faut vraiment...
Ce qu'on appelle l'idée littéraliste, hein, il faut le dire ici, c'est le fait de prendre le texte à la lettre, de façon indiscutée, justement.
Oui, avec l'idée qui semble être inattaquable, puisque le Coran est la parole de Dieu, et bien entendu qu'en islam, le Coran, c'est la parole de Dieu, puisque le Coran est la parole de Dieu, et que Dieu ne peut pas se tromper, bon, alors, chacune de ses paroles, chaque mot qu'il dit, est à prendre au pied de la lettre, hier comme aujourd'hui, comme demain. Alors, nous disons, attention, il y a une raison qui a permis un glissement littéraliste qui dure depuis plus de 1000 ans.
Vous voulez dire un glissement vers l'orthodoxie, en somme, oui. Vers une lecture non discutée.
Oui. Et à partir de quoi? Nous disons, tout le monde parle du Coran. Et c'est vrai, cette émission concerne Dieu. Si le Coran est la parole de Dieu, c'est de ça qu'on cause. Mais qu'est-ce que le Coran? Alors, voilà une idée sur laquelle peu de gens se penchent, a été évoquée, mais nous lui donnons une très grande importance. À savoir, le Coran se présente en islam comme une révélation que Dieu a faite à son prophète, au dernier prophète qu'il a choisi, Mohammed. Et cette révélation durera en gros 22 années, de l'an 610 à l'an 632. Et sous une forme ou sous une autre, on y reviendra si vous voulez, Dieu revient et révèle des versets successifs dans des circonstances différentes. Ça, c'est le moment vécu de la révélation. Et lorsque Barthes racontait que voilà, Dieu avait descendu un verset, puis les musulmans ont dit « mais c'est trop dur », etc. Et il y en a beaucoup d'autres, et on va peut-être en reparler. Mais le problème est que nous avons donc le moment de la révélation. Et puis, en 632, Mohammed meurt, la révélation ne vient plus. Et pendant 20 ans, les trois califes successifs vont peu à peu arriver à colliger un livre, rassembler tous les versets du Coran.
Colliger, n'est-ce pas, et non pas corriger. Hein. Non, colliger, c'était collationner en somme.
Collationner, voilà. Et puis faire un volume de ce qu'on croit être l'ensemble des versets du Coran. Seulement. Et là, c'est capital. Passons sur toute une série de problèmes alphabétiques, techniques, etc., qui sont secondaires. Admettons l'idée que la Vulgate, le livre, la Vulgate coranique, rassemble, en gros, les versets que Dieu a révélés à Mohammed au cours de ces 22 années. Seulement, elle se présente comment? Et là, le problème commence à se poser. Elle présente les versets sans les relier aux circonstances dans lesquelles ils ont été révélés à Mohammed.
Sans les inscrire dans le temps.
Et ensuite, elle fait des sortes, on appelait ça des chapitres, les sourates, mais ce ne sont pas des chapitres, c'est des assemblages de versets dont certains se suivent, d'autres pas, où tous les registres s'entremêlent sans transition, ce qui fait que le texte devient très difficile à suivre pour quiconque ne sait pas tout cela. Et vous avez devant vous un texte où, d'accord, vous avez l'ensemble des versets, mais vous n'avez plus le moyen de les retrouver dans ce qui a été un véritable échange vivant entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes.
Gabriel est venu à moi pendant que je dormais. Il tenait une pièce de brocart contenant un écrit et me dit « Lis ». Je dis « Je ne sais lire, je n'ai jamais lu et ne sais le faire. Je n'écris ni ne lis ». Il me serra très fort au point que je crus la mort venue. Puis il me lâcha et me dit « Lis ». Je dis « Quoi lire ? Je ne vois rien à lire, et ne lis ni n'écris. » Je ne parlais ainsi que pour éviter qu'il ne m'inflige une deuxième fois ce qu'il venait de m'infliger. Alors il dit « Lis, au nom de ton Seigneur, qui a créé l'homme d'un caillou. Lis, ton Seigneur est le très généreux, qui avec le calame a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Je lus après lui, et il finit par me quitter. Je me réveillais en sursaut. C'était comme si ses paroles avaient été inscrites dans mon cœur. » Mahmoud Hussein est notre invité, sont nos invités aujourd'hui dans les nouveaux chemins de la connaissance pour parler du dieu des musulmans, Mahmoud Hussein, c'est-à-dire Adel Rifat et Bagat El Nadi, auteurs l'un et l'autre à quatre mains d'un ouvrage intitulé « Penser le Coran » paru en janvier 2009 chez Grasset. Il y a notamment un chapitre dans ce livre intitulé « Les débuts de la révélation » dans lequel vous revenez sur le fait qu'il y a plusieurs versions de la révélation, comme dans la Bible d'ailleurs, il y a plusieurs versions de la Genèse, Bagat El Nadi.
Ah, exactement. Et ce n'est pas étonnant. Les différentes versions viennent toutes du prophète. C'est-à-dire c'est lui qui les a racontées. Ce qui montre que les choses changent dans le temps. Pas seulement les versets. C'est-à-dire lui, il
a raconté... En vertu de quoi telle version qu'il éprouve le besoin de raconter tel jour n'est plus la même que telle autre ensuite?
Alors voilà, vous posez un grand problème.
Il faut historiciser ici le Coran pour rendre possible son interprétation, l'inscrire donc dans des anecdotes presque.
Anecdotes, non, ce sont des récits.
Les circonstances de sa rédaction.
Circonstances, exactement. Mais par exemple, si on prend comme exemple l'histoire de la révélation, la première révélation, il y a plusieurs versions. Qu'est-ce qu'elles faisaient les chroniqueurs de l'islam au début, quand elles ont essayé de collectionner tout ça? Ils avaient des chaînes, ce qu'on appelle des chaînes. Des chaînes, ça signifie quoi? Ça signifie qu'ils ont entendu cette histoire ou ce récit de la bouche de tel, qu'il avait entendu de la bouche de tel, qu'il avait entendu de la bouche de tel, qu'il avait entendu de la bouche de tel. Alors, ça s'appelle une chaîne. Il y a plusieurs personnes. Alors, elles prenaient le récit et après, elles essayaient de voir est-ce que celui-ci a vécu le temps de celui-là? Est-ce qu'il a pu entendre l'histoire de sa bouche. Si c'est vrai, elles reviennent à la deuxième personne, à la troisième personne, à la quatrième personne. Alors, si la chaîne est complète, bon, voilà un autre élément, un deuxième élément qu'on ajoute. Et après, on revient sur les personnes citées. Est-ce qu'elles sont convaincantes? Est-ce que ces gens-là sont dignes de confiance? Alors, si tout ça s'avère vrai, alors, on accepte la version. Mais ce qui pose un problème, parce que souvent, on trouvait plusieurs versions, et en vérifiant tous ces éléments, on tombe d'accord sur la véracité de la version. Mais les versions ne se concordent pas. Elles sont différentes.
Est-ce que je peux intervenir là pour préciser quelque chose? Allez-y. Parce que j'imagine que tous les auditeurs ne savent pas exactement la différence entre les versets du Coran et puis les chroniques dont nous parlons ou les propos du prophète.
Non, les auditeurs ne la connaissent pas. Voilà. Certains, certainement, mais allez-y.
Oui. Il y a eu 20 ans qui sont passés depuis la mort du prophète et donc la fin de la révélation et puis le fait qu'on a entre les mains la Vulgate, un livre. Bon, ça, c'est en 20 ans. Donc, il n'y a pas eu tous ces problèmes.
Collection, donc.
La collection a été faite par des compagnons du prophète. Donc, on peut considérer que, essentiellement, c'est de ça qu'il s'est agi. Voici les versets du Coran. La parole de Dieu, c'est ça. Mais il a fallu près de 2 siècles, dans une société au départ essentiellement orale, pour que l'opération dont Bagat vient de parler se fasse. C'est-à-dire qu'on est déjà dans l'empire des Abbassides, dans une nouvelle société, et puis les gens commencent à se dire, mais on va perdre tout ça, il faut mettre par écrit ces choses-là. Il y avait des fragments, il y avait des gens... Bon. Et peu à peu, donc, on revient en arrière, on remonte en amont pour essayer de mettre par écrit des choses qui, évidemment, font apparaître des différences, des changements, des contradictions parfois. Donc il faut s'arranger avec tout ça.
Mais vous faites ici un travail d'historien. Faisons ce travail d'historien qui est donc, à vous comprendre, hein, la condition de possibilité du travail de l'herméneute, de l'interprète, de celui qui prend le texte et qui le questionne, qui l'interroge. Pourquoi ne pas faire ce travail d'herméneute avec la version de la révélation que j'ai lue tout à l'heure? Que signifie l'idée qu'on demande à quelqu'un qui ne sait pas lire de lire un texte dont, une fois qu'il l'a lu, donc paradoxalement, il découvre qu'il était inscrit au fond de son cœur? Comment ont interprété ce passage Adel Rifat, Bagat El Nadi?
Je comprends. J'ai presque envie de dire, vous êtes pressé de sauter au deuxième pas. Nous n'avons peut-être pas épuisé l'intérêt de la démarche qui nous maintient dans le
premier. Mais on va revenir dessus, vous inquiétez pas. Ah. Mais le problème, c'est que nous avons 50 minutes pour parcourir ici toutes les démarches, en l'occurrence les conditions de possibilité de l'interprétation et l'effectivité d'une interprétation.
Mais voilà. Non, mais parce que toute l'exégèse est née à partir d'un texte difficile à interpréter, puisqu'on ne donnait pas les moyens directs de le relier aux circonstances dans lesquelles il a été révélé. Ça, c'est le premier point. Mais alors, que font les exégètes? Ils prennent le Coran tel que, dans un ordre qui n'est pas du tout l'ordre de descente chronologique, ils prennent un verset puis l'autre, et puis disent, mais bon, il y en a certains qui sont clairs, et d'autres qui sont beaucoup moins clairs. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On va aller vers ces chroniqueurs dont nous parlions, et qui, eux, nous ont dit que ce verset est probablement a été révélé au prophète dans ces circonstances, avant telle bataille, pour prouver. Et ainsi de suite. Mais tout ça reste quelque chose qui est de l'ordre de la progression non causale. Finalement, la plupart des exégètes reconnaissent l'importance de revenir aux circonstances de la révélation, mais ne donnent pas de vertu causale aux événements eux-mêmes. Ils ne disent pas, parce qu'il y a eu tel événement, alors le prophète a eu l'occasion d'entendre de Dieu ceci ou cela.
En somme, ils en donnent les circonstances sans questionner la valeur de vérité révélée du texte lui-même.
Exactement. Pourquoi? Parce que pour eux, et c'est à ça qu'on revient, et ça c'est le fond du littéralisme, Dieu a dit cette parole tout à fait indépendamment des circonstances dans lesquelles...
Peu importe c'est les circonstances de sa... Voilà, d'accord. Mais
alors, nous, ce que nous disons, mais c'est très important parce que cette démarche est relativement nouvelle, même si elle reprend des choses qui ont été dites il y a plus de 1000 ans, c'est que nous disons, attendez, il est très important de revenir en amont du texte de la Vulgate, au moment où ce texte était vivant, au moment où il n'était pas seulement vécu d'ailleurs par le prophète, puisqu'il était celui qui transmettait la parole de Dieu, mais par l'ensemble des musulmans. Et là, on revient en citant des centaines de versets remis dans leur contexte, et on découvre qu'on n'a même pas besoin de prouver l'historicité de la révélation. Elle est évidente, elle va de soi. C'est dans cette évidence que nous voulons planter la pensée même de l'herméneutique.
Alors je voudrais en revenir justement. Plantons la pensée de l'herméneutique, j'adore cette formule. Plantons la pensée de l'herméneutique avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Lis un texte alors qu'il ne sait pas lire, et en le lisant, il découvre, celui à qui on demande de le lire, découvre que ce texte est inscrit dans son cœur. Comment, mettons, je ne suis pas musulman, je prends le Coran, je tombe sur ce passage, et je décide, en homme de bonne volonté, de m'interroger sur le sens, ou les sens, les différentes vérités contenues dans ce passage.
Toute première des choses à faire, et nous parlons donc de l'exégèse telle qu'elle s'est faite, parce que nous insistons beaucoup sur le fait que toutes les démarches d'aujourd'hui, il faudrait bien qu'elles commencent par qu'est-ce qu'on a fait avant. Et vraiment, la plupart des exégètes, enfin tous ceux qu'on cite, sont des exégètes classiques et indiscutés. Alors que font les exégètes? Ils disent, mais dans quelles circonstances ce verset est tombé? Eh bien, il se trouve que le prophète a raconté à un des compagnons les plus proches les circonstances dans lesquelles il recevait la révélation. Et il a dit que c'était sous deux formes principales. Ou bien il voyait l'ange Gabriel qui lui disait des choses, lui disait la parole de Dieu. Ou bien il ne voyait pas l'ange Gabriel, il n'entendait pas des mots distincts, mais il entendait, il était dans un sentiment qu'on pourrait appeler transe. Mais ce n'est pas très clair. En tout cas, il entend comme un son de cloche terrible, comme quelque chose, comme un choc qui lui vient de l'extérieur. Et puis, il trouve ces paroles inscrites dans son cœur. Mais lui, il les relie à ce choc. Il faut bien voir que le prophète a vécu cette expérience, a vécu ces 22 années, étant absolument persuadé, et tous ses compagnons avec lui, que ce n'était pas son inconscient qui l'entendait. C'était vraiment une transcendance, quelque chose d'extérieur à sa conscience et qui s'imposait à elle.
De la transe à la transcendance, Bagat El Nadi.
Oui, je vais revenir au verset là. Voilà. C'est à votre question. Bien, je peux vous dire que c'est un très court verset. C'est très court. Et ça paraît très évident. Vous avez évoqué une question que tout le monde, tous les exégètes n'ont pas cessé depuis le départ à se poser. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi commencer par « Iqra » « Lis » à quelqu'un qui ne sait pas lire. Mais nous ne savons pas s'il ne savait pas lire, le prophète, parce qu'il y a beaucoup de thèses à propos de ça. Et il y a des gens qui disent que le prophète savait lire et écrire. Et savait même plusieurs langues. Mais le problème, c'est effectivement pourquoi. Qu'est-ce que ça, cela signifie, lire au nom de votre Dieu? Bon, jusqu'à maintenant, il n'y a pas beaucoup d'explications convaincantes. C'est-à-dire, les gens se contentent d'expliquer les mots, mais ils n'expliquent pas le sens.
Et si vous aviez à le faire?
Nous?
Oui.
Nous, c'est mystérieux. C'est-à-dire, il y a beaucoup de versets dans le Coran qui sont mystérieux, que personne n'est arrivé à expliquer. Et je crois que c'est propre au dialogue qui a eu lieu entre Mohammed et son Dieu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله.
Adel Rifat, Bagatel Nadi, autrement appelé Mahmoud Hussein, sont nos invités aujourd'hui dans les nouveaux chemins de la connaissance, et c'est du Coran que nous parlons. Pensez le Coran, c'est le titre de votre livre paru chez Grasset en 2009, en janvier 2009. Il y a dans le un paradoxe, me semble-t-il, hein, à la lecture de votre ouvrage, qui vient du fait que on a parlé du postulat littéraliste, donc du danger qu'il y avait à prendre le texte à la lettre et donc à ne pas tenter de l'interpréter. Ce postulat littéraliste repose sur l'idée que le Coran est la parole de Dieu et que par conséquent, il n'est pas tributaire du temps. Et pourtant, il semble bien que la notion de temps soit l'un des moyens de rétablir la plénitude du savoir divin. En somme, Dieu intervient dans le temps. Comment comprendre, comment concilier ces deux dimensions, à savoir l'éternité d'une parole et le fait en même temps que cette parole éternelle ou éternitaire a vocation, j'allais dire, à s'incarner dans le temps, à intervenir dans le temps, Bagat el-Nadi.
Ça, il faut revenir à l'histoire, comme vous dites.
C'est-à-dire au temps.
Au temps, exactement.
En revenant à l'histoire, vous répondez implicitement à la question que je vous pose. Hein,
ouais.
Allez-y.
Non, c'est-à-dire au cours du deuxième siècle après la mort du prophète, il y avait un courant philosophique qui s'appelle Mu'tazilite, qui commençait à discuter du Coran. C'était les philosophes, Kalam. Kalam, c'est parole. Mais en réalité, ça désignait les gens.
C'était des rationalistes. Hein.
Exactement.
Ils ont créé la théologie, en fait.
Alors, ils ont commencé à discuter du Coran, de ces différents versets, et d'essayer de trouver des explications pour les mots, et de dire une chose qui était effrayante pour certains, c'est qu'effectivement, le Coran est descendu dans le temps, et qu'il faut le prendre ainsi. Que Dieu a révélé une vingtaine de milliers de messages, ont envoyé une vingtaine de messieurs de prophètes, et ils ont disparu. Derniers exemples, c'était la Torah et l'Évangile. Alors le Coran, c'est aussi un livre, mais qui est venu dans le temps.
Est-ce que l'inscription du Coran dans le temps a pour effet de produire politiquement de la théocratie, c'est-à-dire de confondre le Coran avec un texte de loi, ou bien est-ce que l'inscription du Coran dans le temps a pour effet d'inaugurer, si j'ose dire, un espace de laïcité, c'est-à-dire la possibilité d'une interprétation qui revienne sur le caractère révélé de la vérité en question et qui donc inaugure la possibilité d'une loi non corrélée à Dieu?
Les deux, parce que il y a
c'est les deux, mais il faut choisir
évidente.
Quand même, c'est parce que c'est pas
non,
la même
justement,
chose.
Justement, certains choisissent, certains autres. Mais nous, notre travail a commencé par était de souligner qu'il y a eu, durant les 22 années de la révélation, ce qu'on ne voit pas dans la Vulgate telle qu'on la lit, il y a eu un véritable dialogue continu entre le ciel et la terre. Et nous parlons d'un dialogue en temps réel, et je ne dis pas n'importe quoi, rien de tel que des exemples. Lisons un ou deux exemples pour donner à l'auditeur la sensation physique de ce dont nous parlons. Nous parlons ici d'un hadith, d'un propos du prophète tout à fait reconnu. « À la veille de Arafat, le prophète implora la clémence de Dieu en faveur de la communauté des musulmans. Dieu répondit, « Je pardonne à tous, sauf à ceux qui ont commis des injustices. Il faut bien que je prélève sur eux de quoi dédommager leurs victimes. » Le prophète insista, « Seigneur, tu peux prendre au paradis de quoi dédommager les victimes et pardonner quand même à ceux qui ont commis les injustices. » Dieu ne répondit pas. Arrivé à Muzdalifa, le prophète l'implora à nouveau en faveur de tous ceux de sa communauté. Cette fois, Dieu y consentit. Alors, le prophète éclata d'un rire joyeux. Nous avons d'autres exemples. Si vous voulez bien que j'en cite un autre.
Allez-y, je vous en prie.
Par exemple, avant que toutes les règles à suivre durant le jeûne de Ramadan n'aient été édictées, les musulmans pouvaient manger, boire et connaître leurs femmes jusqu'au moment où le sommeil les prenait. Après quoi, ils devaient s'en abstenir jusqu'à l'heure de la rupture du jeûne le soir suivant. Il arriva qu'un soir, Omar, qui est un proche compagnon du prophète, enfreignit cette règle. S'éveillant au cours de la nuit, il ne put s'empêcher d'approcher sa femme. Le lendemain, il alla voir le prophète et lui dit « Je viens implorer Dieu et son prophète. »« Qu'as-tu fait de mal ?» demande le prophète. « Je n'ai pu m'empêcher d'approcher ma femme cette nuit. Peux-tu m'indiquer un chemin de pardon ?» Le prophète dit simplement « Je ne m'attendais pas à cela de ta part, Omar. » Omar repartit chez lui. Mais peu après, le prophète sut que Omar n'était pas seul à enfreindre la règle de l'abstinence. Plusieurs musulmans avouèrent qu'ils faisaient la même chose. Le prophète fit alors appeler Omar et lui récita le verset que Dieu venait de lui révéler. « Le rapport avec vos femmes vous est permis durant la nuit du jeûne. Elles sont pour vous un vêtement comme vous êtes pour elles un vêtement. Dieu a su que vous vous faisiez du tort. Il vous a blanchi, il vous a pardonné. Fréquentez donc vos femmes et agissez selon ce que Dieu vous a prescrit. » Mais n'ayez aucun rapport avec vos femmes tant que vous faites retraite à la mosquée. Qu'est-ce que ce verset veut dire ?
Il signifie jurisprudence. Hein. Il signifie nouveau cas de figure, nouvelle loi.
Oui, mais il y a eu nouvelle loi, exactement. C'est-à-dire que non seulement Dieu traite les pécheurs avec indulgence et leur pardonne leur écart, mais il va jusqu'à changer la règle en vigueur. Il leur permet désormais ce qui était jusque-là interdit. Donc, c'était pour insister sur l'aspect descente dans l'histoire. Il y a des gens qui étaient là, qui entendaient, qui ont réagi. Et ce dialogue nous amène, en quelque sorte, on pourrait résumer cette manière de penser le Coran en revenant vers la période où c'était une parole advenue dans le temps, en disant que tous ceux qui, avant nous, et le XXe siècle, on a connu beaucoup, ont voulu penser l'historicité du Coran, se sont vus constamment attaqués par les littéralistes en disant « Mais qui tu es, toi, pour historiciser la parole de Dieu, pour contextualiser la parole de Dieu ?» Nous disons, ou plutôt, nous montrons que c'est le Coran qui le dit, que ce n'est pas nous qui historicisons la parole de Dieu. C'est Dieu qui a choisi de l'historiciser.
Alors voilà, c'est précisément, c'était le sens de la question que j'allais vous poser. Voilà. Magatel l'a dit, est-ce qu'on est toujours là ? Est-ce que quand on fait ce travail, quand on fait le travail qui est le vôtre, travail essentiel qui est le vôtre, est-ce qu'on demeure dans la parole de Dieu ? Est-ce toujours la parole de Dieu dans la mesure où on l'historicise, Magatel l'a dit ?
Mais bien sûr qu'on reste dans le domaine de la parole de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu lui-même...
Mais que reste-t-il alors de la transcendance de
Dieu ?
Non,
je vais revenir... Quand Dieu lui-même historicise la Torah, est-ce qu'il nie que c'est sa parole ? Pas du tout. C'est sa parole. Mais cette parole est descendue à un moment précis, pour une société précise, pour un peuple précis. Ça ne nie pas du tout que c'est la parole de Dieu. Mais si on historicise la parole de Dieu, c'est pour dire exactement ça, ce que Dieu a voulu faire. Il a révélé cette parole au 7e siècle à un peuple ou à une tribu dans la péninsule arabique. et à travers un homme qui était Mohammed, le messager de Dieu. Alors là, c'est très précis. Et c'est ça que les Mu'tazalites ont essayé de faire, c'est-à-dire rendre la parole à son histoire. Mais c'était sérieux, c'était grave aussi pour un certain courant, comme vous dites, les littéralistes. Pourquoi? Parce que dès qu'on commence à discuter, on ne voit pas où on va. On va faire quoi après? Pour les Mu'tazalites, cela nous donnait une liberté d'agir.
De fait, les Mu'tazalites faisaient confiance dans le pouvoir souverain de la raison, adhéraient à l'hypothèse du libre arbitre, à laquelle, évidemment, n'adhéraient pas les tenants d'une interprétation littérale du texte. Et en particulier, l'enjeu ici, la question du libre arbitre humain. Juste une chose, la Bible à Spinoza, comme herméneute, comme exégète, quasi révolutionnaire, hein, en somme, c'est-à-dire comme contempteur de la vérité révélée ou d'une orthodoxie indiscutable. Discuter. Le Coran, peut-être, à Averroès. Je voudrais qu'on entende tout de suite un texte d'Averroès, bien en amont et bien avant Spinoza. Voici ce qu'il écrit. Nous sommes là dans le livre du discours décisif.
Nous disons même interdire l'étude des ouvrages de philosophie à ceux qui y sont aptes, parce que l'on supposerait que c'est à cause de l'étude de ces ouvrages que certains hommes, parmi les plus abjects, se sont égarés, ne revient à rien de moins qu'à interdire à une personne assoiffée de boire de l'eau fraîche et agréable au goût, et que cette personne meure de soif au motif que d'autres, en buvant, ont suffoqué et en sont morts. En effet, la mort que l'eau produit par suffocation est d'ordre accidentel, tandis que celle causée par la soif est d'ordre essentiel et nécessaire. Les accidents qui ont pu advenir par cette science, la philosophie, peuvent tout aussi bien advenir par toutes les autres. Que de docteurs de la loi pour qui la science de la loi fut cause accidentelle, qu'ils péchèrent par défaut de continence et s'immergèrent dans la vie mondaine. Et c'est même le cas de la majorité d'entre eux, alors même que leur science requiert par essence la vertu pratique. Par conséquent, ce qui advient par une science requérant la vertu pratique est susceptible d'advenir aussi par une science requérant la vertu intellectuelle.
L'enjeu dans ce texte d'Averroès n'est-il pas justement ici à la fois de relativiser finalement telle ou telle parole selon que telle personne est hydropique ou ne l'est pas et par conséquent aime l'eau ou ne l'aime pas, enfin l'exemple qu'il prend est très parlant de ce point de vue, donc relativiser à la fois la vérité et en même temps montrer que l'utilisation de la raison ne peut pas nuire, ne peut jamais nuire à Del Rifat.
Écoutez, vous avez lâché le mot le plus important, en l'occurrence, relativité.
Je crois que c'était raison relativiser. Le mot le plus important.
Allez, ça va de soi. Mais il y a quelque chose qui n'apparaît pas d'emblée et qui pourtant, pour nous, au bout de ce travail, nous apparaît assez évidente. Ce n'est pas parce que Dieu est intemporel, et on reprend en ce sens ce que Bach venait de dire à propos des Mu'tazalites, ce n'est pas parce que Dieu, lui, est en dehors du temps et de l'espace que nécessairement chacune de ses paroles doit l'être. C'est ce que disent les littéralistes, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Or, il se trouve que dans le Coran, tel qu'on peut le lire sous cette forme vivante que nous proposons, il se trouve que, certes, il y a des vérités qui, d'ailleurs, prolongent celles qu'il y a déjà dans la Torah et l'Évangile, qui sont des vérités générales, métaphysiques, morales, eschatologiques. Mais il y a aussi des vérités reliées, entrelacées aux premières d'ailleurs, et reliées à telle ou telle circonstance. La question a été en fait résolue, si j'ose dire, conceptuellement, par Dieu lui-même, puisqu'il a dit « je peux abroger des versets ». Et quand j'abroge un verset, je donne un autre meilleur ou équivalent. Qu'est-ce que ça veut dire, l'abrogation? Ça veut dire que Dieu inscrit sa parole, éventuellement dans l'intemporalité, mais aussi, éventuellement, et dans certains cas précis, et il y en a des dizaines que nous citons, il l'inscrit aussi dans le relatif, pour bien montrer que, non pas que Dieu se trompe, mais qu'il a dit une vérité relative qui, quand les circonstances changent, devient autre. Dans les deux cas, on peut dire que Dieu a raison, mais à condition d'accepter l'idée qu'il y a des vérités qu'il dit et qui sont relatives.
C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. C'est lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui, Allah, nulle divinité que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux, gloire à Allah. Il transcende ce qu'il lui associe. C'est lui, Allah, le créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur, à lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie, et c'est lui, le puissant, le sage. Il n'y a pas une contradiction, Adel Rifat Bagat El Nadi, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre le fait, entre l'unicité de Dieu, on posait la question d'ailleurs hier à propos du christianisme, entre la Trinité et l'unicité de Dieu. Ici, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre l'unicité de Dieu et le fait qu'on lui attribue autant de noms? Est-ce que tous les noms de Dieu, si j'ose dire, ne contredisent pas l'unicité du divin, Bagat El Nadi?
Non, je ne pense pas. Je pense au contraire, le contraire. D'ailleurs, vous me rappelez une discussion qui a eu lieu entre les Mu'tazilites et les autres. Parce que si vous avez remarqué, tous les noms que vous avez cités, ce sont des qualités. C'est-à-dire le juste, le miséricordieux. Alors, et pour les Mu'tazilites, la question était, est-ce qu'on peut qualifier, donner à Dieu des qualifications comme on donne aux humains?
C'est le sens de la question que je vous pose, en fait.
Ouais,
est-ce que ça n'est pas indûment qu'on le fait? Est-ce que ça n'est pas contradictoire, ça?
Alors, vous voulez dire que j'ai mal compris?
Non, surtout pas. Non. Non, mais alors, justement.
Oui, alors, justement, eux, ils disent, au contraire, Dieu est seul, unique, et ses qualités, ce ne sont pas des qualités, c'est le sens même de Dieu.
Adel Rifat.
Oui, c'est très important de retrouver cette idée de l'unicité de Dieu, ouais, et de l'unité intime de tout ce qu'il a créé, c'est-à-dire du monde, et que cela ne se manifeste pour nous, les humains, qu'à travers la diversité, la différence et toutes les contradictions qui s'ensuivent.
L'unicité de Dieu, est-ce qu'elle comprend le monde? Est-ce que Dieu est le monde? Est-ce que quand on parle d'unicité de Dieu, ça inclut le monde lui-même? Ou est-ce que l'unicité de Dieu, c'est l'unicité d'une personne qui serait dépositaire, en somme, de certaines qualités, toutes naturellement des vertus, mais qui, des qualités, en somme, qui ne seraient pas, comment dire, en somme, un être qui n'aurait aucun défaut. Est-ce qu'en somme, Dieu, c'est tout simplement quelqu'un qui n'a pas de défaut?
Mais ça, c'est pour l'islam, c'est évident.
C'est évident.
C'est pour les Mu'tazilites.
L'enjeu n'était pas de savoir s'il a des défauts ou pas, c'est de savoir si c'est quelqu'un.
Quelqu'un, ouais. Mais voilà là, une question. Ouais. C'est-à-dire, ça, c'est vraiment une grande question qui s'est posée dès le départ avec l'islam. Dieu, c'est quoi? Je me souviens que nous avons... Il y a un livre écrit par un philosophe musulman qui s'appelle Farabi, qui commence par discuter des qualités de Dieu, de l'essence de Dieu, de définition de Dieu. Et que nous avons amené en Égypte un jour, parce que mes neveux et mes nièces étaient intéressés par la question. Alors, on leur a donné le livre à lire. Ils ont été effrayés. C'est-à-dire, comment on peut discuter de Dieu de cette façon? Mais en réalité, la question « qu'est-ce que Dieu ?» a été posée aussi par les Mu'tazilites. Parce que pour les autres littéralistes, Dieu c'est Dieu et c'est terminé, on ne pose plus de questions. Mais les Mu'tazilites ont essayé de savoir ce que c'est Dieu. Et eux, ils ont fait la différence entre Dieu et sa création.
C'est précisément le sens de la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, là encore, entre le fait que, dans l'expérience...
Vous dites contradiction?
Je pose contradiction, je pose la question de la contradiction. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans le fait que, dans la croyance en un Dieu unique et un, qui pourtant ressemble à un dieu personnel, un dieu en somme au sein duquel on n'admet aucune fissure dans son unicité, et un dieu dont on dit en même temps qu'il est séparé avec le monde. Comment Dieu peut-il être sans fissure tout en étant séparé du monde, Adel Rifat?
Écoutez, ça c'est évidemment des questions qui n'ont pas cessé d'être débattues de manière très ouverte et très féconde pendant quelques siècles, et puis ensuite... plutôt camouflé. Y a des amis qui pensent que oui, on pourrait retrouver dans le dieu de l'islam le dieu de Spinoza. On pourrait parler de panthéisme. Mais nous ne sommes pas sûrs de voir cela. C'est-à-dire qu'il y a... Vous parlez de contradiction au sens rationnel du terme.
Entre l'unicité et la séparation.
Oui. Oui,
si Dieu est créateur, il est séparé de ses créatures. S'il est unique, s'il est dans l'unicité, comment peut-il être à la fois dans l'unicité et séparé de ses créatures?
Non, il n'est pas séparé. Ah. Il y a, ontologiquement, vous ne pouvez pas dire que sa création, c'est la même chose que Dieu. On ne peut pas le dire en islam. Mais en même temps, on peut dire que Dieu qui a créé le monde ne cesse pas de le recréer. Et il y a des versets, de très beaux versets d'ailleurs, où on parle de sa présence dans toute une série de signes multiples. Il est là. Mais on ne peut pas confondre sa création avec Dieu lui-même.
Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, glorifie le nom de ton Seigneur, le très haut, celui qui a créé et agencé harmonieusement, qui a décrété et guidé, et qui a fait pousser le pâturage, et en a fait ensuite un foin sombre. Nous te ferons réciter le Coran de sorte que tu n'oublieras que ce qu'Allah veut, car il connaît ce qui paraît au grand jour ainsi que ce qui est caché. Nous te mettrons sur la voie la plus facile. Rappelle donc où le rappel doit être utile. Quiconque craint Allah s'en rappellera et s'en écartera le grand malheureux qui brûlera dans le plus grand feu où il ne mourra ni ne vivra. Réussit certes celui qui se purifie et se rappelle le nom de son Seigneur, puis célèbre la salate. Mais vous préférez plutôt la vie présente alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Ceci se trouve certes dans les feuilles anciennes, les feuilles d'Abraham et de Moïse.
Bagat El Nadi, le temps presse.
Oui, hein, non, je voulais ajouter quelque chose à propos de votre question là.
Et du texte peut-être qu'on vient d'entendre finalement qui rentre en résonance avec la question que vous posez.
Parce que le texte exprime aussi cette vérité. Alors je voulais dire qu'il y a eu beaucoup de discussions. C'est-à-dire depuis le début de l'islam, on n'a pas cessé de discuter. Mais bien sûr, on a discuté pendant 3 ou 4 siècles. Et après, il y a eu une décision d'arrêter la discussion, l'ijtihad. Mais pendant ces 3 ou 4 siècles, il y a eu beaucoup de...
L'ijtihad désigne la discussion, non pas l'arrêt de la discussion.
Oui, non, l'ijtihad, c'est arrêter l'ijtihad, c'est arrêter la discussion. Et qu'il était temps maintenant de se contenter de quelques dogmes. Mais pendant qu'il y avait des discussions, la question était posée à propos de Dieu et ses rapports avec sa création. Et il y avait un problème très grave pour les musulmans. Est-ce que l'homme... est conduit ou pas. C'est-à-dire, est-ce que l'homme fait ce que Dieu... Est-ce qu'il est libre ou est-ce qu'il est...
Prédestiné.
Bon, pour les Mu'tazilites, l'homme était libre. Et elle se basait sur une idée que Dieu ne peut pas être méchant et ne peut pas créer le mal. Alors, c'est l'homme qui crée le mal et c'est pour ça que Dieu le juge.
Donc, Dieu ne crée pas tout.
Voilà. Alors, on vient ici. Si on dit ça, ça signifie que Dieu, après avoir créé l'homme, l'a laissé libre. Et ça, c'était l'idée essentielle de Mu'tazilit. Pour les autres littéralistes, c'était absolument refusé.
On retrouve ici, d'ailleurs, dans ce que vous dites, le lien très profond qu'il y a entre la transcendance divine et la conception d'un libre arbitre. On les oppose bien souvent, alors que l'idée de libre arbitre et la notion même d'un Dieu transcendant se tiennent la main. C'est ce qu'on comprend en vous écoutant, Bagat El Nadi. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Mahmoud Hussein, c'est-à-dire Bagat El Nadi et Adel Rifat. Merci donc à tous les deux. Hein. Vous êtes tous les deux les auteurs de plusieurs livres sur le Coran. J'ai plaisir à citer Al-Tsira, tome 1 et 2, paru chez Grasset en 2005, et Penser le Coran, qui vient de paraître chez Grasset et dont nous venons de parler. Demain, dans les nouveaux chemins de la connaissance, je recevrai donc Dan Arbib, philosophe Dan Arbib, qui viendra vous parler du Dieu, cette fois-ci dans la Torah et la religion juive. Donc. Je vous signale également, chers auditeurs, l'apparition de la dernière livraison du Monde des Religions, excellent comme toujours, mars-avril 2009, Les philosophes et Dieu, ça ne s'invente pas. À la lecture des textes, Georges Kless, à la technique, Jean Frédéric, à la réalisation, François Connac, assistant et collaboration, Geneviève Méric, Adèle Van Rett, Jennifer Murzou, Tristan Grenassia. France Culture, il est exactement 17h50. Tout de suite, Albert Jacquard.